Bonsoir et bienvenue dans cette émission. La journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo est célébrée chaque année le 30 avril. C'est sous les thèmes financement durable et la transformation du secteur que cette journée est célébrée cette année 2026. Une journée qui rend hommage au personnel éducatif, scientifique et met en avant le rôle crucial de l'éducation dans le développement de la nation. Dans le même cadre, le gouvernement de la RDC, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a lancé ce mardi 28 avril à Kinshasa la mobilisation des acteurs étatiques et non étatiques en faveur de l'éducation et de la formation en RDC. Cette démarche vise à améliorer la qualité de l'enseignement, à renforcer l'accès équitable à l'éducation et à adapter les offres de formation aux réalités du marché de l'emploi. Lors de la cérémonie officielle, la première ministre Judith Suminwa souligne que l'éducation constitue un pilier essentiel du développement durable en RDC. Elle a également insisté sur la nécessité d'investir davantage dans la formation des jeunes afin de bâtir une société plus compétente et plus compétitive. De son côté, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a appelé à un engagement collectif et effectif pour relever les défis majeurs du secteur, notamment les déficits d'infrastructures scolaires, la formation des enseignants et l'accès des filles à l'éducation. Quelle évaluation faire de l'enseignement en RDC à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons ici au studio Madame Cécile Tshiombo, elle est secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo SIECO en sigle. Bonsoir Madame Cécile Tshiombo.
Bonsoir Guy.
En ligne, professeur Kenny Kale, il est conseiller au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Bonsoir professeur Kenny Kale.
Bonsoir Monsieur Guy Maté.
Et aussi en ligne, Michel Bissa, il est professeur à l'Université de Kinshasa, il est secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences sociales. Bonsoir, professeur Michel Bissa.
Bonsoir, messieurs journalistes, bonsoir aux auditeurs de la radio Capi.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Les enseignants de la province éducationnelle Kasaï 2 dans la province du Kasaï traversent depuis plusieurs années une situation difficile marquée par l'irrégularité du paiement de leur salaire. Il leur arrive de passer 2 à 3 mois sans percevoir leurs primes, une réalité qui affecte gravement leurs conditions de vie. Cette instabilité financière a un impact direct sur leur survie, alors que beaucoup peinent à subvenir à leurs besoins quotidiens et à ceux de leur famille. Les détails dans ce reportage de André Katende Ngalamulume.
Entre insuffisance salariale et irrégularité de paiement, les enseignants de la province éducationnelle Kasaï 2 peinent à joindre les deux bouts. Une situation devenue chronique et qui continue de fragiliser le quotidien de ces professionnels de la CRE. La Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, Séneco, s'indigne de ces conditions de travail qu'elle juge particulièrement difficiles. Son coordonateur, Félicien Lobo, affirme
les salaires des enseignants est devenu irrégulier au Kasaï 2. Ça ne parvient pas à satisfaire aux besoins de ces derniers.
Une précarité qui contraint certains enseignants à s'endetter ou à emprunter de l'argent à des taux d'intérêt élevés simplement pour assurer leur survie et celle de leur famille. À Mouika, Augustin Ditalala, enseignant à l'Institut 1 de Mouika, témoigne de cette réalité quotidienne.
Nous contractons des dettes terribles. Nous prenons de l'argent auprès des agents de Banque Lambert et nous remettons 50%. Par exemple, si je prends 100 000, je dois remettre 150 000.
Face à cette réalité, Félicien Lobo, coordonnateur de la FENECO appelle les gouvernements à améliorer les conditions salariales des enseignants afin de leur permettre de travailler dans la dignité et avec sérénité. Kanana, André Katende Ngalamulume, Radio Kapi.
Merci beaucoup à vous André Katende Ngalamulume. Ce jeudi 30 avril, la RDC célèbre la Journée nationale de l'enseignement, une journée à l'occasion de laquelle on rend hommage aux enseignants et on réfléchit sur le système éducatif, souvent marqué par des revendications syndicales liées aux conditions de travail et aux infrastructures scolaires. Mais à Beni, Butembo et Lubero, Nord Kivu, apprendre et enseigner relève parfois des défis. Entre attaques armées, déplacements des populations et écoles incendiées, le système éducatif est durement affecté dans ces zones en insécurité. Les détails avec Martial Papimoukeba.
Des enseignants tués, des écoles incendiées et un nombre incalculable d'élèves contraints de fuir après les attaques répétées des groupes armés, notamment les ADF. C'est la réalité qui vivent depuis plus d'une décennie plusieurs localités des territoires de Beni et Lubero. Une situation qui affecte sérieusement les niveaux de l'enseignement dans la région, alerte Jérémy Kasereka-Kinyangwa, responsable de l'Union nationale des enseignants du Congo, INECO, dans la zone.
Jusqu'à aujourd'hui, 60 écoles ont été brûlées par les IDF, 38 enseignants fauchés. Nous sommes en train de voir que la qualité de l'enseignement est en train de connaître une rude épreuve. Nous avons 222 jours au secondaire comme au primaire. Quand il y a incursion dans une zone, toute la population doit prendre fuite. Pour que la situation se normalise, souvent ça prend des semaines pendant lesquelles les enseignements sont suspendus. Il arrive des fois où il est question seulement de sauver l'année, pas de sauver l'éducation. C'est vraiment une terrible descente aux enfers du système éducatif. Nous ne savons pas par quel sens se vouer.
Dans ces conditions, enseigner devient un défi quotidien et apprendre un véritable parcours d'obstacles. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Merci à vous, Martial Papimoukeba. Madame Cécile Tshilombo, vous êtes secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo SIECO en sigle. Quelle est votre réaction après avoir suivi ces deux reportages sur la situation des enseignants en RDC?
Oh, Guy, vous savez que ma réaction ne peut être que d'une femme, d'une mère écœurée, dans le sens que ce qui vient d'être dit est vrai, puisqu'il n'y a pas que les deux provinces. Nous avons un sérieux problème dans la Chouapa, j'étais ici l'autre fois. Le même problème...
Là, c'est juste une illustration.
Illustration. Voilà. Ouais. Et ça fait très mal dès lors que nous apprenons ce qui s'est passé dans l'arrière-pays. Vous savez que le salaire a un caractère humanitaire. S'il y a quelqu'un qui ne reçoit pas son salaire pendant qu'il a déjà rendu service, ça fait mal, puisque même la Bible le dit, il faut déposer le salaire dans la main d'un travailleur avant que la nuit ne tombe. Dès lors que les enseignants ne reçoivent pas leur salaire, surtout ceux qui sont à Beni, Lubero et Butembo, avec les ADF, tels que les camarades venaient de le dire, ça fait très mal avec les déplacements de ces mêmes enseignants, les élèves, les parents. Comprenez que c'est écœurant et que ça fait mal y aller d'interpeller les décideurs à bien comprendre qu'il était temps d'évaluer les banques payeuses. Il était temps.
Et comment vous évaluez les secteurs de l'enseignement en RDC à l'occasion justement de cette journée de l'enseignement qui sera célébrée ce jeudi 30 avril?
Nous sommes en train de participer à ces travaux avec comme thème principal le financement durable de l'éducation et de la formation. Hier, il y a différents ministres des sous-secteurs du système éducatif congolais qui ont défilé dans les différents panels.
Alors, vous parlez de cette manifestation qui se tient depuis hier,
oui, sur l'éducation. Et je commence par là.
Vous y participez aussi.
Je participe, puisque vous avez, avec ce thème central, chaque ministre qui est passé. Il n'y a aucun ministre qui a dit que les enseignants travaillent dans de meilleures conditions et qu'ils ont un bon salaire. Tous, ils ont parlé de la souffrance de l'enseignant et que ça faisait mal. Quand eux-mêmes en parlent ainsi, et si nous, enseignants et syndicats, nous pouvons disséquer ce thème, ça fait très mal. Puisque quand le vice-premier ministre, ministre de Vidier, parle, il a parlé de soutenir les systèmes éducatifs. Puisque quand je parle du système, c'est puisque j'ai vu hier tous les ministres de tous les sous-secteurs défilés. Et chaque ministre, en commençant par le ministre de l'Éducation nationale, nouvelle citoyenneté, nous avons eu le ministre de la formation professionnelle, nous avons eu le ministre de l'ESSI
et tous les
recherches scientifiques.
Ils disent quoi?
Mais ils parlent des mauvaises conditions dans lesquels travaillent les enseignants et personnel de l'éducation.
Donc ils sont conscients de ça.
Ils sont conscients de ça.
Et à l'issue de ça, on espère qu'il y aura des solutions qui seront proposées.
Voilà pourquoi le thème est le financement durable de l'éducation et de la formation.
Voilà. Et le secteur de l'éducation, s'il faut, de l'enseignement à l'éducation, s'il faut l'évaluer, quels sont les compartiments qui ne marchent pas en RDC?
Les compartiments qui ne marchent pas en RDC, nous avons, un, les infrastructures. Puisque s'il faut rendre un bon travail, il y a ces points-là qui font mal. Ça fait tache d'huile. Il était prévu plus de 2 ou 3 000 écoles par le projet de 145 territoires. Mais combien d'écoles le système éducatif a eu à recevoir?
Et à travers la réforme sur la gratuité de l'enseignement, il a été prévu, n'est-ce pas, la construction des nouvelles écoles?
Oui, c'est ça dont je... C'est de cela
que... Ça n'a pas été fait sur le terrain?
C'est fait, mais... C'est une goutte d'eau dans l'eau, puisque
ça ne répond pas aux besoins.
Madame la ministre pouvait se taper la poitrine si ce projet pouvait lui présenter 1000 écoles, par exemple, ou 2000 ou 3000 écoles par rapport à ces projets. Ces projets, moi-même, je vous ai dit l'autre fois, j'ai fait le tour, mais je n'ai pas trouvé plusieurs ou des écoles nouvellement construites dans le cadre de ces projets à travers le pays. Vous pouvez faire autant de distance et vous rencontrez à peine une école. Et on vous dit, c'est une école construite par le projet de 145 territoires. Vous allez aussi dans les compartiments salaires. Vous comprendrez avec moi qu'à tout bout du champ, il y a contrôle pour les fichiers de la paie. Il faut les nettoyer. Il faut les nettoyer et c'est chaque année. C'est comme si on était en train de faire du surplace.
On nettoie les fichiers parce qu'il faut réactualiser les données.
Il faut réactualiser les données. Et s'il n'y a pas de données, tout le monde, nous avons reconnu qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'informations nécessaires. Depuis 2021 à 2025, il n'y a pas eu de données qui peuvent nous aider à évaluer le système.
Est-ce que vous avez au sein de l'enseignement, vous avez des vraies statistiques?
Non, c'est pourquoi nous parlons des données. Nous parlons des données, nous parlons des statistiques, nous parlons de la vraie information. C'est pour dire, si aujourd'hui on arrivait à comprendre que voici les effectifs de la maternelle à l'université. Nous avons autant d'enseignants et nous avons autant de personnel administratif. Et voici ceux qui sont payés et voici ceux qui ne sont pas payés. Ça pourrait nous aider à évaluer convenablement le système, puisqu'il ne faut pas continuer à créer des projets. Cependant, il faut soutenir les anciens projets pour que nous arrivions à évaluer convenablement le système afin d'aider le pays à évoluer.
Et donc, quand on nettoie ces fichiers, ça impacte directement les salaires des enseignants?
Oui, ça impacte.
Notamment,
à un certain
qui
moment,
arrive en retard?
Les salaires arrivent en grand retard. Ça, c'est avec les prestataires. Puisque, je vous avais dit l'autre fois, que l'État congolais paye le salaire de l'enseignant les cinq de chaque mois, il fait sa part, mais ce sont les prestataires, les banquiers, qui doivent verser les salaires. Et le projet tel que ça a été défini n'a pas été actionné tel que ça a été défini, excusez-moi la tautologie, par l'ancien premier ministre Matata Ponyo. Le premier ministre Matata Ponyo a trouvé la bancarisation sur la table de l'ancien ministre de la fonction publique, M. Laurent Ekenge, quand il a trouvé les projets. Mais les projets devraient être actionnés tel que ça a été défini, puisque la bancarisation ne devait avoir lieu que dans des centres-villes Et dans des territoires et secteurs, on devait continuer avec les comptables d'État qui sont aujourd'hui payés sans qu'ils ne puissent travailler, rendre service.
Voilà. Après la question sur les infrastructures, sur les salaires, et quel est l'autre problème qui persiste, qui ne trouve toujours pas des réponses? Vous revenez souvent sur cette question des nouvelles unités,
des personnes non mécanisées, ouais. Ainsi de suite. C'est une question qui ne trouve presque pas de réponse. Pourquoi? Puisque lorsque nous nettoyons les fichiers, au même moment que le fichier est nettoyé, au même moment il y a des nouvelles unités qui sont engagées. Et lorsque les nouvelles unités engagées arrivent, ils devraient être pris en charge par les fonds récupérés par le nettoyage du fichier de la paye. Mais curieusement, vous allez vous retrouver avec ces gens-là depuis plusieurs années sans être payés. Vous comprendrez avec moi. Hier, j'étais dans la salle, j'étais écœuré, frustré, lorsque le vice-premier ministre, ministre au budget, parle de paiement de 45 000 enseignants NP au mois d'avril. Je ne sais pas, ça sera une paye complémentaire ou tout simplement demain nous allons festoyer avec cet argent comprenant les nouvelles unités et le NP. Le vice-premier ministre a parlé d'un ajout sur le salaire de l'enseignant de 40 dollars. Mais sur Top Congo, j'ai suivi, il a parlé de 80 000 francs congolais. Le même premier ministre, vice-premier ministre, ministre obligé, a parlé d'un budget. Il n'a pas parlé d'un projet de budget. Il a parlé d'un budget de 16 milliards qui ne prendra pas l'augmentation des salaires ni des députés ni des ministres, mais ce budget prendra en charge le salaire de l'enseignant qui va aller de 150 dollars à 1000 dollars.
Et donc on va ajouter la part des enseignants, quoi.
Ah oui, nous disons que la manière dont il a parlé, c'est comme s'il a été rassuré quelque part.
Jusqu'à
1000 dollars. Nous avions l'année passée exigé 500 dollars. Il n'y en a pas eu. Mais comme il confirme que bientôt, il va aller défendre le budget de 16 000 dollars, puisqu'il n'a pas parlé d'un projet. Le budget de 16 000 dollars, il va donner ces 1000 dollars à l'enseignant de peur qu'il... que madame la ministre d'État se retrouve avec une voix de l'enseignant qui va taper sur son front par rapport à ce que le premier vice-ministre, ministre obligé, venait d'annoncer.
Vous voulez dire quoi par là? Vous voulez dire quoi?
Je veux dire tout simplement que l'enseignant qui a suivi, qui a appris, exigera ce qu'il aille les 1000 dollars dans son assiette. Et les 40 dollars qu'il a promis, les 80 000 et les 43 000 enseignants NINP qu'il prendra en charge. C'est moi ici, j'étais dans la salle, j'ai eu peur.
Vous n'y croyez pas?
J'y crois, mais j'ai eu peur, Guy.
Pourquoi?
J'ai eu peur.
Ça paraît irréalisable.
Utopique. J'ai eu même pitié de madame la ministre d'État. Puisque ce qu'il a annoncé va peut-être la mettre en difficulté.
Merci. Kenny Calais, professeur, conseiller au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Quelle évaluation vous faites justement du secteur de l'enseignement en RDC à l'occasion de cette journée nationale de l'enseignement qui sera célébrée ce jeudi 30 avril?
Merci, monsieur Guy Maté, et merci pour l'invitation et l'honneur que vous faites d'intervenir ici. J'ai suivi religieusement les deux reportages ainsi que la prise de parole de Madame Chiombo. Avant que nous puissions effectivement évoquer les problèmes qui sont là et qui doivent être combattus chaque jour, j'aurais voulu qu'on fasse un exercice d'état de lieu de ce qui est déjà accompli. Je pense qu'avant de parler de ce qui est accompli...
Justement, c'est ça l'évaluation, n'est-ce pas? Vous donnez ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, et pourquoi ça n'a pas été fait. Voilà. Allez-y.
C'est là où je voulais en venir. Et donc revenir sur quelques points que Mme Cécile a évoqués. Sur le PDL 145 territoire, Madame Cécile se souviendra du rapport annuel 2025. À date d'aujourd'hui, nous sommes à 1384 écoles qui ont terminé et livré. Et donc, c'est un chiffre important.
1384 écoles, hein?
4 écoles finies 1304. Et opérationnelles. 1384.
84, voilà.
Okay. Et ce chiffre-là...
ça, c'est à travers le territoire national.
À travers tout le pays, effectivement. Mm-hmm. Et donc, c'est important de le dire.
Avec et donc aux écoles qui existaient, on a ajouté 1384 écoles. Nouvelles écoles.
C'est genre de 1384 écoles.
Ok.
Il faut ajouter à cela là, le projet PAF et PEKIP qui est adopté beaucoup mieux, qui vont construire à l'horizon 2027 5800 nouvelles salles de classe. Donc ça, c'est un acquis important qui nous permet notamment d'absorber le surplus d'élèves qui ont rejoint le système éducatif. Et Dieu merci, grâce à la gratuité chère et au chef de l'État. Donc c'est important de dire.
Professeur Kenny Calais, 1384 écoles, c'est quand même des réalisations intéressantes et qu'on ne doit pas taire, n'est-ce pas, qu'il fallait aussi associer notamment les syndicalistes, parce que quand vous attendez Madame Cécile Chiombo parler, pour elle, il n'y a pas eu de nouvelles écoles qui ont été construites. Et donc, vous êtes en train de faire des bonnes réalisations, mais vous ne communiquez pas. Voilà, c'est ça le problème.
Non, nous avons communiqué. Le rapport d'activité 2025 a été distribué et étendu au sein du ministère, tous les partenaires, au nombre desquels Mme Cécile, ont ce document-là. Et ce chiffre dont je parle ici en fait l'objet du discours de chef de l'État à la nation à la dernière intervention devant le Parlement. Et donc, ces documents-là existent, cette information existe. Peut-être que Mme Cécile l'a raté.
Voilà, donc à part les 1384 écoles qui sont déjà construites et les 5800 autres qui seront construites à l'horizon 2028, c'est ça que vous avez dit, non? Et quelles sont les autres réalisations sur le plan salarial, sur le plan d'amélioration des conditions socio-économiques des enseignants?
Absolument. Sur ce plan-là, je voudrais rappeler ici que nous avons eu des assises de Bibois. Lorsque nous sommes, l'équipe actuelle est arrivée en place donc en 2024, et suite à ces assises-là, le salaire des enseignants a été revalorisé deux fois. Premièrement, au trimestre 4 de l'année 2024, de 50 000 francs congolais, puis secondement, au trimestre 3 de 2025, de 50 000 francs congolais, soit un total de 100 000 francs congolais.
Donc en deux ans, on a ajouté au salaire des enseignants 100 000 francs congolais.
100 000 francs congolais. Il faut rappeler, M. Guimaté, que le salaire moyen de l'enseignant était autour de 300 000 francs. Et donc l'ajout de 100 000 francs constitue un apport important, une augmentation importante de l'ordre de plus de 30%. Et ce serait effectivement irresponsable de dire que nous avons atteint l'objectif. Mais je pense que c'est important, M. Guimaté, de réaliser l'effort que cela représente en termes de chiffres, parce qu'il s'agit là d'un accroissement total de plus de 66 milliards de francs congolais.
Oui, mais est-ce que vous avez, professeur Kenny Calais, est-ce que vous avez les chiffres réels? Est-ce que vous avez les statistiques sur, notamment, les nombres d'enseignants que nous avons dans ces pays?
Exactement, nous avons tous les chiffres. Je peux vous donner les chiffres si vous voulez. Donc,
oui,
nous avons actuellement, si nous prenons la totalité des agents, parce que notre ministère paye à la fois les enseignants prêts à la main, ceux qui sont devant les élèves, mais aussi l'ensemble de la cohorte des administratifs. Donc nous sommes à 700 354 agents payés. Et donc les chiffres existent. Avec une masse salariale qui approche de 290 milliards de francs congolais. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je voulais revenir pour dire que les 100 000 francs, c'est un acquis, et le ministère continue à travailler à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants.
Et vous êtes au courant des annonces qui viennent d'être faites par l'EVPM Bidier?
Effectivement, Je crois que Mme Cécile a mélangé les chiffres. Si vous permettez, je voudrais préciser les chiffres dont il s'agit ici. Monsieur Guimaté, l'éducation primaire publique est gratuite. Les enseignants du primaire public reçoivent un salaire de base auquel s'est ajouté, sur la volonté du chef de l'État, la prime de la gratuité qui s'élève à 80 000 francs. Et donc, lorsque VPM parle de 80 000 francs, c'est la prime de gratuité. Cependant, cette prime-là a été instaurée en 2021. Jusqu'à aujourd'hui, le nombre d'enseignants a évolué, alors que l'enveloppe initiale n'avait pas été augmentée. Et donc, nous sommes dans une situation où vous avez des enseignants qui ont salaire de base, mais qui n'ont pas la prime de gratuité, ou encore ont une prime de gratuité moindre que le palier de 80 000 francs prévu. Je voulais ici, M. Guimaté, en exclusivité, vous donner une information très importante et très décisive. À la paie d'avril, c'est-à-dire celle que va toucher les enseignants de la République dans quelques jours, il n'y a plus un seul enseignant du primaire public qui n'a pas la totalité de sa prime de gratuité et de son salaire de base. Ça n'a jamais été atteint. Et je voulais préciser que, justement, ça fait le lien avec le contrôle des fichiers de paie, que cette réussite majeure, ce jalon majeur de notre système éducatif a été atteint sans que nous ayons reçu un budget supplémentaire de la part de l'État. Oui. Cela a été possible.
Oui. Grâce est-ce que,
à une meilleure maîtrise des effectifs, à un contrôle des fichiers de paie qui a permis de résorber le cas des enseignants déjà payés, mais qui étaient soit sous-payés en prime de gratuité, soit impayés.
Vous,
ça, c'est un jalon majeur et un acquis majeur.
Vous irez jusqu'à donner à un enseignant 1 000 $, comme cela a été dit ici tantôt.
Je pense que Madame
Cécile
n'a pas peut-être saisi ce que disait le VPM. Il ne parle pas de 1 000 $. Je dis maintenant, nous sommes dans une république sérieuse. Ce que nous voulons faire, nous ne pouvons le faire que dans la mesure de ce qui est possible. Car le monde a trop de regrets, trop de promesses. Si vous prenez votre calculatrice, M. Guimaté, et que nous disons qu'à l'horizon du mois prochain, de l'année prochaine, nous devons payer 500 dollars, 1000 dollars à l'enseignant, cela fait au minimum un coût moyen de 8 milliards de dollars sur une année fiscale. Le budget de l'État lui-même est autour de 16 milliards. Vous comprendrez que c'est lui qui promettra de payer 8 milliards, que ce soit la moitié du budget de l'État en salaire d'enseignants, elle serait en train d'affabuler. Nous nous refusons à cet enseignant-là qui n'est pas responsable. Ce que nous disons, c'est que nous avons accompli quelque chose avec les 100 000 francs. Nous avons accompli un palier majeur avec le paiement intégral et total de tout l'enseignant du primaire public en prime de gratuité. Et ainsi, nous allons de pas en pas. Je veux que Mme Cécile et tous ceux qui nous écoutent réalisent que le chemin que nous avons à faire est long, mais il faut que nous apprécions chacun de pas, chacun des efforts que ce ministère fait dans le sens d'amélioration de notre secteur. Il n'y aura pas un ministre demain, ni un chef d'État demain, qui viendra soudainement donner 1 000 $ aux enseignants. La responsabilité, le sérieux, ce que nous faisons, c'est d'y aller pas à pas, effort après effort, dans une meilleure maîtrise des effectifs, et dans une meilleure gestion des fonds de l'État. Voici le chemin le plus sérieux, le plus logique que nous avons emprunté, et il faut saluer ça, c'est important.
Merci, professeur Kenny Calais. Nous allons vous redonner la parole. Hein. On donne la parole au professeur Michel Bissa. Michel Bissa, vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, vous êtes secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences sociales. Vous également, comment vous évaluez les secteurs de l'enseignement en RDC?
Je disais que je suivais avec intérêt les interventions des compatriotes qui sont intervenus. Je suis doublement inquiet. D'abord, inquiet de la satisfaction clamée ici par les conseillers de la ministre. C'est vraiment très inquiétant lorsque un conseiller d'une autorité publique peut passer sur les ondes de la radio pour déclarer la satisfaction de l'État pour le salaire que nos enseignants touchent aujourd'hui, ou pour ce qu'il appelle augmentation avec 100 000 francs congolais. Vous pouvez traduire 100 dollars et vous vous rendrez compte que c'est un salaire de misère que nos enseignants prennent. Je suis aussi très inquiet de voir que la syndicaliste qui est supposée défendre les travailleurs peut passer pour dire qu'elle a eu pitié ou peur de la ministre titulaire sectorielle, lorsque le ministre du budget annonce les chiffres à la radio Capi. Ça voudra dire que le syndicaliste est beaucoup plus proche de l'employeur que du travailleur. Et c'est ça le grand problème que nous avons justement dans le système éducatif au Congo.
Elle est plutôt sceptique.
Je pense qu'on a d'abord un premier problème de la justice distributive au niveau national. Quand on regarde ce que moi, comme professeur d'université, je touche, je trouve que c'est vraiment injuste que mon compatriote qui enseigne à l'école primaire puisse toucher un salaire qui ne peut même pas permettre à mon enfant d'étudier une année à l'université. Ça, c'est un problème. Et quand on regarde ce que les députés, les médecins, les politiques touchent, il faut une décision courageuse, politique, pour la redistribution de la justice, de la ressource nationale. Alors, s'agissant particulièrement du système éducatif, je ne comprends pas pourquoi les gens ont tendance à avoir une approche minimaliste de la journée de l'enseignement. Quand on parle de la journée de l'enseignement, on voit aussi bien l'enseignement élémentaire, l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, que l'enseignement universitaire. De toutes les façons, c'est une totalité. Et pour cette totalité, si cette année on voudrait réfléchir sur le financement durable, il faut rentrer d'abord dans les années 60 pour vous rendre compte que notre système éducatif, y compris du primaire, avait 7 budgets. Donc on ne passait pas le temps à parler que du salaire des bases ou des primes, mais il y avait le budget de santé, il y avait le budget de la formation continue qui permettait aux enseignants d'accéder à des bibliothèques, ainsi de suite. Il y avait même un budget de mobilité au niveau. Donc, on avait 7 budgets qui permettaient à l'enseignant de pouvoir non seulement donner la formation de qualité, mais avancer. Aujourd'hui, s'il faut évaluer notre système éducatif, ne nous limitons pas à regarder la question des salaires. Commençons par regarder la qualité de l'enseignement. Je regrette de constater que quand on essaie d'évaluer, on entre dans une approche quantitative pour dire que dans les programmes de 145, on a augmenté autant d'écoles. Non. Les écoles dans ces pays, publiques ou privées, chaque député en a créé dans son village. Il n'y a pas un ministère qui a pondu des arrêtés comme le ministère de l'EPST. On les a vendus en masse. Et donc, notre problème ne se pose pas en termes de qualité, de quantité, mais c'est plutôt en termes de qualité. Et s'agissant de cette qualité, il faut commencer par questionner la qualité des enseignants. On a quels enseignants? Comment les ISP, l'IUPN forment les gens qui devraient enseigner là-bas? Deuxièmement, il faut poser la question du programme. Vous savez que notre programme d'enseignement enseigne plusieurs contre-vérités. Aujourd'hui, quand vous êtes dans le programme de géographie où on parle du fleuve Congo en quatrième année, on continue de dire à nos enfants que le fleuve Congo a un débit régulier. Tous les scientifiques savent que c'est faux. On continue à dire à nos enfants que la Terre fait des mouvements, la rotation et la translation. Tous les scientifiques savent qu'aujourd'hui c'est faux. Et donc, on n'a pas
réactualisé, n'est-ce pas, les
théories. Le programme d'enseignement, mais aussi notre système éducatif doit orienter les enfants vers le secteur technique, les filières techniques. Nous les sentons à l'université. Les enfants qui viennent vont aller en majorité dans les humanités parce qu'on les a enseignés là-bas que les mathématiques, physiques sont difficiles. Alors que les facultés de polytechnique sont aujourd'hui vides, médecine vétérinaire vide, agronomie presque vide, la faculté de droit des millions, la faculté de sciences sociales des milliers, la médecine inutilement trop nombreuse, c'est-à-dire qu'au niveau de la base, il n'y a pas eu l'orientation pédagogique pour exploiter les talents des enfants.
Et justement, c'est ce qui était professeur. Professeur, ceux qui avaient vocation, n'est-ce pas, à orienter, où sont-ils aujourd'hui?
C'est l'OSPE, l'orientation pédagogique à l'UPEN. Il y a une section par rapport à ça. Mais qui est parmi les sections les plus faibles? Parce qu'au niveau de l'EPST, on n'a pas reconnu la valorisation de ces métiers qui devraient détecter les talents trop jeunes, orienter les enfants vers des filières où le pays a besoin. Mais aussi, enfin, s'il faut parler de financement durable, messieurs les journalistes, on doit éviter de penser que l'État doit tout faire. Dans les années 60, on avait des écoles qui avaient la capacité de produire quelque chose pour permettre aux enfants ou de faire fonctionner ne fût-ce que la cantine scolaire. Alors aujourd'hui, le problème se situe dans la valorisation des résultats des recherches. On fait suffisamment de recherches, et heureusement maintenant le pays a un incubateur du génie scientifique congolais, mais cet incubateur ne doit pas se limiter au niveau de l'ESU. L'incubateur doit commencer au niveau de l'EPST, même de l'école maternelle. Et nous saluons énormément l'initiative de la ministre Maraïssa Malou par rapport à la semaine des sciences. Mais ça ne peut pas être une activité isolée à Kinshasa. Ça doit être une initiative permanente à temps réel pour rapprocher les enfants de la fabrication des prototypes. Ceux qui font la biologie chimie peuvent apprendre à faire du savon, à impacter, à planter, à cultiver. Donc notre système éducatif aujourd'hui que nous fêtons, la fête de l'enseignement demain, nous devons approcher ça de la fête du travail qui sera le lendemain pour voir notre système conduit à quel système éducatif, à quel système de transformation, d'employabilité. Tous les enfants qui finissent les humanités ne doivent pas aller à l'université. Il faut qu'ils soient capables d'être directement employables ou s'orienter dans des filières techniques. Mais aujourd'hui, le diplôme d'État représente quoi? Quelqu'un qui a un diplôme d'État, s'il ne vient pas à l'université, c'est fini pour lui. Il faut que le PST pose des questions réelles. Nous faisons l'enseignement des bases pour quelle société et pour quelle utilité, pour quelle employabilité directe, surtout la création des richesses. Ensuite, on monte. Bon, plus de questions de salaire, nous l'avons dit, c'est vraiment de la misère qu'on donne à nos enseignants. Ça doit faire la honte. Et s'il faut y résoudre avant d'attendre la production, faisons la redistribution de la richesse nationale. Là, ce qui est là, je trouve absurde, vraiment très absurde qu'un député vive dans un luxe insolent, injuriant, que le ministre vive dans des conditions où il vit, et que le conseiller des ministres vienne dire on a ajouté 100 000 francs, il faut apprécier, c'est déjà beaucoup. Non, 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 s'il vous plaît, ce sont des parents comme nous, ils ont des enfants dans des maisons, et ils méritent mieux. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce stade, M. Journaliste, sauf si vous avez une autre question.
Oui, évidemment, il y a des choses que vous avez relevées ici et qui nécessitent qu'il y ait des réformes, n'est-ce pas, courageuses. Et parmi ces réformes-là, il y a quelques années, on a initié des systèmes LMD. S'il faut en parler aujourd'hui, s'il faut essayer de l'évaluer aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez, professeur Michel Bissa?
Ah, merci beaucoup. Je suis parmi ceux qui ont accompagné cette réforme. La principale critique, c'est que nous n'avons pas suivi la volonté du législateur. Aujourd'hui, nous avons une seule loi de 2014 qu'on appelle la loi de l'éducation nationale, qui prend à la fois l'enseignement élémentaire, primaire, secondaire, jusqu'à l'université. Mais le LMD s'est limité au niveau de l'université. Il n'y a pas suffisamment de dialogue et de passerelles entre l'université et les PST, alors que nous avons des femmes à la tête de ces ministères. Nous n'avons pas senti que les deux ont suffisamment dialogué. Mais nous avons aussi à côté de ça le ministère de l'enseignement technique professionnel, qui doit prendre en charge tous ceux qui ne sont pas allés dans le système éducatif formel. N'oublions pas que l'enseignement ne se limite pas qu'au formel. On a tous ceux qui sont passés par l'INPP et tout. Mais LMB aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas enseigné aux gens à enseigner autrement. Nous n'avons pas orienté les enfants vers des secteurs techniques, productifs. Et on doit sélectionner. Ceux qui vont à l'université doivent être une minorité. Et ça, ça doit être dialogué avec les PST. Je vous ai dit que les PST continuent même à avoir des programmes avec des contenus dépassés. Aujourd'hui, on ne peut pas enseigner les enfants sans intelligence artificielle. Le véritable six problèmes du pays, le problème de la guerre, comment l'enseignement les prend en charge, c'est ça que le LMD devrait conduire. Le problème de la crise alimentaire, mettre fin à la faim, comment on les prend en charge depuis premier primaire. Le problème des antivaleurs, comment transformer l'homme congolais. Vous savez, M. Joali, c'est quand nous on était enfants, on pouvait être renvoyé de l'école avec 80% parce qu'on avait une conduite médiocre. Aujourd'hui, nous avons des écoles où cette case-là n'est même plus remplie.
Merci, professeur.
Et vous savez que l'année passée écoulée, il n'y avait même pas de bulletin au niveau du pays.
Voilà.
Donc,
merci
le LMD doit aller vers les référentiels professionnels de l'école primaire jusqu'à l'université.
Merci. Nous allons maintenant écouter les auditeurs qui veulent donner leur point de vue par rapport à cette thématique. Madame Cécile Chiombo, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa. C'est Jackson Kisangani.
Bonsoir la radio de la paix. Moi c'est Jackson Kisangani, je vous appelle depuis la ville province de Kinshasa. Le véritable problème de l'enseignement en RDC ne se limite pas au manque d'infrastructures ou au faible salaire des enseignants. Il se trouve aussi dans le contenu même de l'éducation. Comment former des citoyens capables de développer la RDC si dès l'école primaire, ils connaissent mieux l'histoire et la géographie de l'Occident que celle de leur propre pays? Après plusieurs années comme enseignant, j'ai constaté que notre système éducatif reste trop théorique et souvent déconnecté des réalités congolaises. Beaucoup d'élèves terminent leurs études sans maîtriser les richesses, les défis et les potentialités de la RDC. L'école congolaise doit former des jeunes enracinés dans leur réalité, capables de comprendre leur pays pour mieux le transformer. On ne peut pas construire l'avenir d'une nation avec une jeunesse qui connaît le monde, mais ignore son propre pays.
Madame Cécile Jombeau.
Merci beaucoup. Kisangani, à partir de Kinshasa. Je vous remercie puisque je suis en train de me dire que dans les temps, lorsque moi j'ai étudié, il y avait les orienteurs. Qu'est-ce que les orienteurs faisaient? Les orienteurs devraient voir qui sont génies pour aller à la formation professionnelle. Il y avait des centres sociaux où on apprenait les métiers de menuisier, l'électricité, ainsi de suite. Et il y avait les enfants qui pouvaient aller faire la littéraire, faire les scientifiques, tels que Madame la ministre d'État a eu à mettre en place la semaine de la science. Vous comprendrez avec moi que même ce que les professeurs venaient de dire, tous nous sommes pour que nous ayons un système éducatif fort. Il est allé vers les LMD. LMD qui a été formé convenablement sur ce système qui devrait être et qui doit prendre en charge les écoles à partir de la maternelle jusqu'à l'université. Lorsque nous avons parlé ici, j'ai commencé par dire que tous les ministres du système, c'est-à-dire les sous-secteurs, ont défilé dans des panels hier. Ils ont reconnu qu'il y a des problèmes. Il y a des ministres, je prends par exemple les affaires sociales avec les éducateurs sociaux. Il y a plus de 9 ans que les éducateurs sociaux ne sont pas payés. Il y a
plus de 9 ans. Ils vivent comment?
Nous ne savons pas comment ils vivent. C'est madame la ministre qui peut nous dire comment ils vivent. Ici, il y a, dans le temps, il y avait les centres sociaux. Il y avait les centres sociaux qui a amené ceux qui n'ont pas étudié avec l'alphabétisation. Il y avait les centres sociaux qui prenaient en charge des jeunes filles mères qui pouvaient aller apprendre la couture, le ménage, ainsi de suite. C'est pour dire ceci, lorsqu'on parle d'un financement durable, le professeur aille à mettre un accent fort sur le financement qui ne peut pas provenir seulement de l'État congolais. Nous avons parlé même aujourd'hui des financements innovants. C'est un problème qui a été posé il y a plus ou moins 10 ans. Les financements innovants qui peuvent provenir du partenariat public-privé. Aujourd'hui, nous avions eu les entrepreneurs, nous avons eu Vodacom, nous avons GPR, nous avons d'autres partenaires au niveau international qui sont venus démontrer la faiblesse qui peuvent être évaluées afin que nous puissions tous converger vers un financement durable dans le cadre de l'éducation et de la formation. Lorsqu'on parle de l'éducation, on parle de tous les systèmes. On ne parle pas seulement de l'école maternelle ou encore des salaires ou encore des investissements.
Merci.
Non.
Merci.
Il faut évaluer le système, dire de vérité pour que nous puissions tous converger vers le développement. Et je m'en vais dire au professeur, s'il vous plaît, Guy.
À quel professeur si, qui sont de
les ici, professeurs.
Il y a Kenny Kale, les conseillers de la ministre, et puis le professeur Bissa, Michel.
Le professeur Michel. Mmh. Je viens dire ceci, que je n'ai pas eu pitié ni peur de dire à madame qui a eu ça. J'ai regardé seulement ce que le vice-premier ministre et ministre du budget aille à dire dans la salle, et j'ai tapé ma poitrine et ma tête pour dire, mais pourquoi il est politique? Il devait aller faire ses discours politiques ailleurs que venir le faire dans la salle où il y a les enseignants.
Merci, donc vous n'y croyez pas. Professeur Kenny Kale, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kananga au Kasaï central. C'est le préfet. Il dit que les préfets, Gentil Basoué Kwamba, voilà.
Gentil Basoué Kwamba Wachidimu depuis le territoire de Kazumba au Kasa central, à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement. Comment demander aux enseignants de célébrer cette journée avec dignité alors que dans le territoire de Kazumba, Luisa, Djimbelenge, Dubaï et Ndemba, plusieurs enseignants totalisent déjà 2 mois d'arriéré de salaire, mars et avril. Quelles mesures urgentes le gouvernement compte-t-il prendre pour régulariser cette situation? Comment parler de financement durable du secteur de l'éducation alors que les enseignants qui sont au cœur de ce système.
Oui, professeur Kenny Kale.
Merci, monsieur Guimaté. Je voudrais, si vous me permettez, avoir un peu plus de temps pour essayer de ramasser les points. Nos co-débatteurs ont eu plus de temps que moi.
Est-ce qu'il y a possibilité de répondre d'abord aux préoccupations de l'auditeur qui vient de parler?
Oui, mais je réponds directement d'abord à l'auditeur.
Quelles mesures urgentes le gouvernement compte-t-il prendre pour régulariser cette situation? Comment parler des financements durables du secteur de l'éducation alors que les enseignants qui sont au cœur de ces systèmes vivent dans la précarité avec des salaires faibles et irréguliers?
Oui, j'allais dire que le point évoqué par notre préfet, il parle de 2 mois d'arriéré de paiement de mars et d'avril. Il faut d'abord dire que la paie d'avril n'est pas encore passée, donc ce n'est pas un arriéré. Ensuite, la paie de mars, dans les profondeurs du territoire, M. Guimaté, comme vous savez, nous n'avons pas la même couverture bancaire. Et dans ce cadre-là, le ministère de Finances procède par les opérateurs de paie qui payent notamment de manière manuelle. Et donc, dans cette activité-là, Mme Cécile l'avait relevé au début, il n'y a pas du niveau du gouvernement de dette ou de retard de paie. Ce sont les opérateurs de paie qui ont de retard. Mais pour le cas précis de Kasaï, une réunion.
Mais ils ont des contrats. Les opérateurs ont un contrat avec le gouvernement. Et lorsqu'ils ne font pas le travail comme il se doit, le gouvernement a le devoir de leur demander, de leur exiger, n'est-ce pas, de bien travailler.
C'est dans ce cadre-là qu'ils ont été donc instruits et les moyens mis à disposition pour que cette paie soit régularisée. Pour le mois d'avril, donc il y a un retard et ce sera comblé dans les jours qui arrivent sur décision du gouvernement aux opérateurs de paie. Voilà le point précis que je réponds à notre préfet et dont je salue le travail au sein de ce secteur ô combien important.
Merci, merci.
Je voudrais réagir à d'autres points évoqués par mes co-débatteurs.
Rapidement, oui.
A dit que je n'ai parlé que de ce qui a été fait. Je voudrais rappeler qu'en préliminaire de mon propos, je commençais par dire il y a des problèmes, il y a des avancées qu'on doit aller chercher, il y a du combat, il y a des conquêtes sociales qui ne sont pas encore là. Mais il me paraissait important, avant de viser l'avenir, de commencer par à l'état des lieux de ce qui est déjà.
Merci.
D'où mon propos sur le point. Mais il a évoqué plusieurs points, monsieur Dimaté, je voulais
Malheureusement, on n'a pas tous les temps, on n'a pas tous les temps pour revenir sur tous ces points-là. Bon, on va vous donner la parole, hein, dans la partie des conclusions. Vous allez peut-être élever certains aspects. Et, professeur Michel Bissa, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
J'appelle la partie de Kisangani, Blessed Atoub. La journée nationale de l'enseignement en RDC met en évidence un contraste préoccupant entre les discours officiels et la réalité du terrain. Malgré les engagements réaffirmés par l'excellence Judith Soumimoua et Raissa Malou, le système éducatif reste marqué par un sous-financement chronique, des infrastructures dégradées et une qualité d'enseignement insuffisante. Dès lors, plusieurs préoccupations majeures s'imposent. Quelles mesures concrètes le gouvernement peut-il prendre pour garantir un financement durable et efficace de l'éducation? Pourquoi les réformes annoncées peinent-elles à être appliquées sur le terrain?
Professeur Michel Bissa.
La question pertinente est justement touche au financement des enfants. L'État a fait face à plusieurs défis. Et tant que nous continuerons à attendre que les impôts et le secteur minier financent l'ensemble de l'État, nous resterons dans le sous-développement. La meilleure voie de notre développement, c'est la voie de la valorisation des ressources nationales. Nous devons apprendre à produire au Congo ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons. Et pour le faire, il faut valoriser les résultats des recherches scientifiques, les innovations et les inventions, y compris des autodidactes des pauvres. Et sur ce rendez-vous-là, le ministère, tous les ministères du système éducatif devraient dialoguer. Aujourd'hui, malheureusement, l'EPST fonctionne en vase clos, le Sursi en vase clos, l'EPST en vase clos. Conséquence, il y a un incubateur du génie scientifique congolais qui procède des prototypes aujourd'hui et au niveau des universités, on a obligé chaque université d'implémenter une cellule de valorisation des résultats de recherche. C'est comme ça que l'université de Kinshasa aujourd'hui a une industrie de production d'eau, a des cliniques universitaires qui rapportent de l'argent. L'école Moamba rapporte un peu d'argent au-delà de leur mission. Il faut imaginer des écoles innovantes, des écoles productrices de richesses, pour produire ce qu'on appelle des financements innovants. De telle sorte que l'État peut intervenir à la fin du mois et les 15, si pas l'école, mais au moins la coordination, peut payer quelque chose, notamment la quinzaine pour la prise en charge. Sinon, nous continuerons à avoir des écoles pauvres, des enseignants pauvres. Mais tout ça là doit être organisé au niveau de l'État.
Merci.
Disons-le, aujourd'hui, il y a une véritable crise d'intelligence stratégique.
Merci, je considère ça comme votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission. Madame Cécile Thiombo, vos recommandations en guise de conclusion?
Je viens ici puisqu'il y a le défi de ne pas mettre de nouveaux projets, mais néanmoins nous nous disons qu'il est plutôt nécessaire de consolider le système par des projets existants. Nous avons par exemple le projet phare du chef de l'État qui est la gratuité, qui doit au lieu être mis en exergue par rapport à l'accès, la qualité et la gouvernance. Lorsqu'on parle de l'accès, nous voyons qu'il y a plusieurs enfants qui viennent Oui, c'est la quantité telle que le professeur Michel l'a dit. Mais nous devons prendre la qualité comme le point focal, l'élément le plus important pour que le système aille de l'avant. Puisque s'il faut atteindre la qualité, il faut que les parties prenantes ici pour nous, nous sommes en train de nous dire que les parties prenantes, les pays ne voient que les partenaires financiers. Mais il n'y a pas que les partenaires financiers. Ici, nous ne sommes pas appelés à venir démontrer ce que nous sommes au plan scientifique, puisqu'il faut mettre de côté la théorie et appliquer la pratique. Il est nécessaire que nous puissions tous converger, consolider ce qui a existé,
consolider les acquis.
Les acquis et avancer, puisque le salaire, oui, la prime, oui, mais chercher à ce que les écoles soient des unités de production, là je suis syndicaliste, l'enseignant doit travailler, doit transformer pour que le système soit réellement un système éducatif convenable à porter le développement.
Merci, professeur Kenny Calais, votre conclusion.
Merci, monsieur Dimaté. Merci pour ce débat intéressant. Je voudrais dire en quelques mots que le système éducatif congolais a connu beaucoup de crises et beaucoup de problèmes, et que par la volonté du gouvernement actuel, on essaye d'avancer, de résorber pas à pas les problèmes et les difficultés de notre système éducatif. C'est dans ce cadre-là que nous avons la gratuité de l'enseignement, qui a permis à de nombreux jeunes, aujourd'hui c'est plus de 5 millions enfants qui n'auraient pas pu autrement faire des études, qui ont rejoint le système éducatif. C'est une avancée majeure. Et sur la qualité de l'enseignement, nous avons aujourd'hui les instituts de formation au métier de l'enseignement qui va renforcer les capacités des enseignants. Nous avons la réforme des curricula, donc des programmes scolaires qui vont intégrer des nouvelles matières, mais aussi revisiter les matières existantes à la lumière des connaissances actuelles. Nous avons l'orientation scolaire qui va être renforcée et qui est déjà fait par le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, mais qui va être renforcée pour permettre aux jeunes de choisir les bonnes filières.
Merci.
Et ces filières soient en harmonie avec les besoins en emploi du pays.
Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions, vous tous, d'avoir accepté, n'est-ce pas, de participer à cette émission. Madame Cécile Chiombo, professeur Michel Bissa et professeur Kenny Calais, merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission, et aussi à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé, et Pierre Diassino et André Mongou qui étaient à la technique, et Chembe Eloku qui a assuré le live de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite du programme sur Radio Okapi.